Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cité et comme chaque lundi à 18h dans votre émission Genève Côté Nature. Ce programme a été créé par l'association Nariès et par ses fondatrices, moi-même Émilie et ma sœur jumelle Virginia qui est évidemment là avec moi pour vous la présenter. Bonsoir! Comme vous le savez, Nariès travaille pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels. Nous agissons sur plusieurs fronts en ayant un volet sensibilisation, un volet pédagogie et un volet scientifique. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans un côté science et c'est donc notre métier de base de scientifique qui va être mis à contribution dans cet épisode. Sur le terrain, notre domaine d'expertise est l'herpétologie, donc l'étude des reptiles et surtout des amphibiens pour notre part. Nous travaillons à la protection du crapaud sonneur sur Genève, mais grâce à nos études et nos intérêts personnels, nous avons tout de même des connaissances sur la nature en général. Si on imagine d'ordonner nos sujets de compétences, je pourrais dire qu'on en sait le plus sur la faune et évidemment en priorité sur les amphibiens sur Suisse et sur la faune suisse et sud-africaine que nous côtoyons régulièrement quand il n'y a pas un maudit virus qui empêche les voyages. Ensuite viennent nos connaissances sur la flore sud-africaine, puis la flore suisse et j'avoue en dernier lieu le règne des mycètes, donc les champignons. Nous avons pourtant étudié ce règne à l'université avec notre professeur Monsieur Job qui était fantastiquement intéressant. On a appris des tonnes d'informations, on a très bien réussi nos examens, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et oui, on ne peut pas être expert dans tous les domaines, mais ce n'est pas parce qu'un sujet n'est pas notre spécialité qu'on ne peut pas faire des recherches dessus et s'y intéresser. Dans le côté science d'aujourd'hui, nous avons donc décidé de nous plonger dans le monde d'organismes qui sont parfois confondus avec des plantes, mais qui ne le sont pas, les champignons. Commençons tout d'abord par regarder où se situe la limite entre un végétal et un non-végétal. Alors, quelles sont les caractéristiques des végétaux auxquels on pense tout de suite? Ils sont verts, parce qu'ils contiennent de la chlorophylle, du moins la plupart d'entre eux, ils font des fleurs, ou en tout cas beaucoup en font, et ces fleurs donnent des fruits. Les végétaux ne peuvent pas bouger et recueillent leur nourriture dans le sol grâce à un système racinaire et grâce à la photosynthèse en utilisant l'énergie du soleil. Et ils se reproduisent grâce aux graines contenues dans leurs fruits qui vont se disperser grâce au vent, à la pluie ou aux animaux et germer un peu plus loin. Ça m'a l'air d'un bon début, mais comme tu l'as dit, ces caractéristiques concernent la plupart des végétaux, mais pas tous. Je propose donc de retourner encore plus en arrière et de comprendre déjà comment la vie est organisée, ou plutôt comment elle a été compartimentée par les scientifiques pour qu'on sache comment gérer tout ça. Quand on cherche à classer les organismes vivants, on parle de systématique. C'est une discipline qui a pour but d'inventorier et de décrire tous les organismes existants ou ayant existé, et de les ranger par groupe en fonction de leurs caractéristiques communes. La systématique est un sujet extrêmement complexe, mais on va essayer de simplifier ici. On illustre souvent les groupes systémiques grâce à un arbre, dont le tronc est le point de départ de la réflexion, et la longueur des branches correspond au temps. Pour cet arbre, on peut avoir de nombreuses échelles. On peut par exemple réaliser un arbre pour montrer les différences entre toutes les abeilles, ou un arbre pour le domaine du vivant en entier. L'avantage de cette structure, c'est qu'on voit justement les liens entre les groupes, c'est-à-dire qu'on peut voir à quel moment de l'évolution deux lignes ou branches se sont séparées pour aboutir à deux types d'organismes plus ou moins parents. Pour parler du nœud, on parle alors d'ancêtres communs. Ce dernier possède des caractéristiques communes aux deux branches qui en partent, et ensuite, d'autres mutations ont créé des différences entre les organismes. Comme toujours dans les sciences, il y a plusieurs manières de voir les choses, plusieurs modes de pensée. On va parler ici d'un des plus généraux, c'est la théorie selon laquelle tous les organismes vivants sont divisés en trois principaux groupes appelés empires ou domaines. On a donc depuis le tronc principal de l'arbre une première séparation entre les prokaryotes et les eucaryotes, puis une seconde au sein des prokaryotes. Les prokaryotes sont des organismes unicellulaires qui ne présentent pas de réel noyau et structure cellulaire. Comme je viens de le dire, cette branche se divise ensuite entre les archaé et les bactéries. Et les eucaryotes, de leur côté, sont des organismes qui possèdent un réel noyau. Ils peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. Dans d'autres configurations, on a une première division entre les bactéries et les archaé, et les eucaryotes se séparent ensuite de la branche des archaé, mais tout dépend du point de vue. On peut aussi avoir une autre configuration où il y a une première division entre les bactéries et les archaé, et les eucaryotes se séparent ensuite à partir de la branche des archaé. On pourrait passer beaucoup de temps à vous expliquer la systématique et la phylogénie des organismes, mais on va avancer un petit peu. On avait donc pour but de vous parler aujourd'hui des plantes, ou plutôt des organismes qu'on prend parfois pour des plantes, mais qui n'en sont pas. Pour ça, on va se focaliser sur l'empire des eucaryotes, dont Virginia vient de vous parler, et on va aller presque au bout de la branche principale, là où on a les séparations entre les groupes qu'on connaît le plus quand on n'est pas scientifique. On peut considérer quatre principaux groupes, les protistes, qui sont des unicellulaires avec un vrai noyau, les champignons, les plantes et les animaux. Là, si on considère cet arbre phylogénétique, on ne peut pas confondre un champignon avec une plante. Ils sont dans deux groupes différents. On parle ici de règnes. Le problème, c'est que ce joli dessin d'arbre, il dépend de beaucoup d'éléments pour être tracé, notamment des éléments génétiques. Or, la génétique est très présente dans les pensées actuellement, mais elle n'était pas ou peu présente il y a quelques décennies, voire quelques siècles. Et dans tous les cas, même quand elle a commencé à être étudiée, les techniques étaient bien moins développées que maintenant et les résultats proportionnellement moins fiables. Si on pense à un temps où la génétique n'existait pas, on ne pouvait se baser que sur des observations. On peut donc comprendre que les premiers scientifiques de l'Antiquité aient comparé un champignon à une plante et les différencier d'un animal. En effet, les champignons ne sont pas mobiles, ils ne s'accouplent pas, ils n'ingèrent pas activement de la nourriture. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque déjà, même si on les rapprochait des plantes, on décrivait les champignons grâce aux caractéristiques qui leur manquaient pour être des vraies plantes. Ils n'avaient pas de tiges, pas de feuilles, pas de racines. Mais alors, maintenant que nous avons davantage de connaissances et de techniques scientifiques, comment peut-on décrire un champignon ?
Un champignon est un organisme eucaryote, donc qui possède un noyau enfermant des chromosomes, donc de l'ADN. Il est pluricellulaire, donc il possède plusieurs cellules. Il a une paroi cellulaire. Il est hétérotrophe, ce qui veut dire qu'il ne peut pas produire sa propre nourriture comme les plantes parce qu'il ne contient pas de pigments rendant la photosynthèse possible. Il doit donc absorber sa nourriture dans l'environnement ou l'obtenir d'une quelconque manière. Il possède de fins filaments, semblables en apparence à des racines, mais qui n'en sont pas. C'est le mycélium.
On a décrit environ 120 000 espèces de champignons, mais on estime qu'il en existe 1,5 million. Ils sont donc très diversifiés. Parlons un peu de leur stratégie pour obtenir de la nourriture, donc des matières organiques. On vient de le dire, ils arrivent à prélever des substances présentes autour d'eux et à les assimiler en les absorbant. On parle d'absorbotrophie. Cependant, les stratégies écologiques varient fortement.
On a déjà les champignons qui utilisent la saprotrophie, c'est-à-dire que les champignons vont sécréter des enzymes extracellulaires autour d'eux qui vont digérer de la nourriture dont les molécules vont ensuite être captées par leur mycélium. C'est surtout la stratégie utilisée par les champignons de forêt qui se nourrissent de feuilles mortes, de débris végétaux ou d'excréments d'animaux en décomposition. Cette dégradation aide aussi d'autres animaux parce qu'elle remet à disposition dans l'environnement des éléments minéraux. Ces champignons participent donc au recyclage de la matière organique.
D'autres champignons font une symbiose mutualiste. La symbiose, c'est une relation obligatoire entre deux organismes qui vont chacun en tirer des bénéfices. Les lichens sont une sorte de symbiose entre un champignon, qui fournit le gîte en protégeant l'association du rayonnement UV et de la sécheresse, et une algue qui fournit le couvert en étant capable de synthétiser des sucres grâce à l'énergie du soleil. Des symbioses existent aussi avec des animaux, notamment des fourmis ou des termites. Dans ce cas-là, les animaux fournissent la maison et les champignons aident à digérer la cellulose.
Troisième groupe, celui des parasites. Au contraire de la symbiose, certains champignons vivent aux dépens d'un autre être vivant qu'ils rendent malades ou dont ils peuvent même provoquer la mort. C'est le cas des mycoparasites qui provoquent des mycoses, de la teigne, de la pneumonie, etc. Ces champignons sont d'abord biotrophes parce qu'ils se nourrissent de tissus vivants, puis ils deviennent nécrotrophes quand l'hôte meurt.
On continue en parlant du commensalisme. C'est une autre relation dans laquelle l'un des deux partenaires bénéficie de l'association et l'autre s'en fiche complètement. Il n'est pas impacté. C'est le cas quand un champignon utilise un hôte comme support, mais ne lui nuit pas. Il y a des commensalismes cutanés de levure ou des commensalismes digestifs ou respiratoires.
Et finalement, on a étonnamment des champignons qui sont carnivores. Et oui, ça concerne 140 espèces. Ils déploient des pièges comme des filaments à mucus collant, des cils ou des lassos. Ils produisent des phéromones qui attirent leurs proies et peuvent ainsi se nourrir de protistes, d'amibes ou de vers.
Vu cette diversité incroyable de manières de se nourrir, il n'est pas étonnant que les habitats qui peuvent être colonisés par des champignons le soient aussi. Et en effet, on trouve des champignons dans presque tous les habitats terrestres, incluant l'intérieur du corps de certains êtres vivants, comme on vient de le voir. Les seuls endroits peu fréquentés sont les couches abiotiques de la croûte terrestre, donc sans vie, les très hautes altitudes et dans les milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce ou d'eau salée.
D'ailleurs, les lieux où ils peuvent se développer sont tellement variés qu'il existe énormément de mots pour les décrire. On peut vous en citer quelques-uns.
Abieticole, dans les sapinières.
Corticole, sur les écorces.
Fimicole, sur le fumier.
Mussicole, sur les mousses.
Pinicole et quercicole, respectivement dans les pinèdes ou les chênaies.
Coprophile et stercorale, sur les excréments.
Ubiquiste, dans des endroits variés géographiquement et écologiquement.
De quoi faire un malheur aux mots croisés.
Leurs aspects varient aussi énormément. Les champignons possèdent des pigments fongiques qui viennent pour la majorité de quinones, qui donnent donc des couleurs orangées, rouges ou brunes, ou des dérivés de l'acide pulvinique qui donnent des couleurs jaune-orange, surtout chez les bolets.
Les rôles de ces pigments sont divers, ils permettent de lutter contre les stress biotiques et abiotiques, ils protègent contre les UV, ils avertissent de la toxicité, protègent contre les mycophages ou attirent des animaux qui vont ensuite disséminer les spores qui sont les graines des champignons. Dans certaines zones de la planète, les champignons possèdent aussi de la mélanine qui les rend plus foncés et leur permet d'absorber les rayons du soleil, apparemment pour se réchauffer, pour ne pas geler. Il existe aussi un certain mimétisme selon le support sur lequel les champignons vivent. C'est le cas du polypore du bouleau, qui est plutôt clair pour aller avec l'écorce de cet arbre.
Et au niveau de la taille, c'est aussi très très diversifié. Certaines moisissures ne font que quelques millimètres, tandis que le record de grandeur d'un champignon comestible est détenu par un pleurote cultivé au Japon qui faisait 59 cm. En France, le record de la plus grande morille date de 2014 pour un spécimen de 8,3 kg. Miam, 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 miam.
Genève. Côté. Nature.
Vous êtes de retour dans Genève Côté Nature, votre émission hebdomadaire qui vous parle d'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté science et nous approfondissons nos connaissances sur les champignons. En première partie, on a vu la différence entre champignons et une plante, on a vu les stratégies écologiques utilisées par les champignons pour se nourrir, la grande diversité des habitats qui sont colonisés et la variété des aspects que montrent les champignons.
On a évoqué que les champignons se reproduisent par des spores, mais on ne l'a pas vraiment expliqué encore. Une spore, c'est une cellule reproductive qui va donner un nouvel individu avec ou sans fécondation. On trouve des reproductions par spore chez les bactéries, certaines plantes comme les fougères, les algues, les champignons et même certains protozoaires.
Chez les champignons et aussi les bactéries, les spores présentent parfois des caractéristiques incroyables qui leur permettent de résister à des conditions folles. Elles peuvent survivre à des conditions défavorables pendant des années et, par exemple, redonner un individu à une grande distance de son point d'origine et très longtemps après la disparition de l'organisme parent.
La production des spores n'est pas continue. La germination se produit quand les conditions sont favorables en termes de température et d'humidité surtout. Selon les espèces, elles tombent simplement au pied du champignon parent et sont ensuite emportées par le vent ou l'eau, et d'autres sont éjectées violemment. Le nombre de spores produites est gigantesque. On les compte par millions ou milliards selon les espèces. Cette stratégie est importante parce que la probabilité qu'une spore devienne un champignon est très faible à cause des conditions favorables très exigeantes pour la germination.
On va s'arrêter là pour le côté très théorique et on va parler un petit peu de quelques types de champignons particuliers en fonction de leur histoire ou de leur utilisation.
On a parlé de différentes manières de classifier les champignons. Eh bien, au XVIIe siècle, on ne faisait que distinguer les champignons comestibles des dangereux. Et on avait nommé deux classes, les fungi esculenti et les fungi perniciosi. De nos jours, les champignons sont très utilisés dans l'alimentation, dans la santé en tant que médicament et dans l'industrie.
Côté alimentation, on peut manger tel quel de nombreuses variétés de champignons, même si les espèces comestibles ne sont en réalité qu'une infime part des espèces connues. On mange alors soit la fructification, comme un champignon de Paris, soit la phase végétative, comme le corne ou les mycoprotéines. Cependant, on peut aussi utiliser les champignons comme base indirecte pour des aliments, par exemple pour la fabrication de certains fromages, de vins, de bières ou d'autres produits fermentés comme la sauce soja ou le tofu. En Suisse, une ordonnance sur les denrées alimentaires contient 115 espèces de champignons comestibles. Pour ne citer que quelques espèces parmi les plus consommées et appréciées, on peut nommer l'agaric rubicon, les différents types de cèpes, autrement dit bolets ou de chanterelles, la trompette des morts, le lactaire sanguin, le pleurote pulmonaire, les russules, les morilles et les truffes.
Côté santé, les principaux médicaments d'origine fongique sont les antibiotiques, les stéroïdes et les substances antitumorales. Aujourd'hui, ils peuvent être naturels ou synthétisés évidemment. Un des antibiotiques les plus connus est la pénicilline, découverte par Sir Alexander Fleming le 3 septembre 1928.
Et côté industrie, on utilise les champignons pour de nombreuses utilisations comme le blanchiment du papier, le traitement contre des substances chimiques dangereuses, la lutte biologique dans l'agriculture, le compostage, etc.
On pourrait évidemment dire encore mille choses sur les champignons, mais on va terminer cette émission en racontant quelques anecdotes originales sur les effets indésirables des champignons.
Vous savez tous évidemment que certains champignons sont toxiques et ne doivent donc pas être ingérés. Eh bien, figurez-vous qu'il existe quelques espèces qui sont à la fois toxiques et comestibles. Le coprin noir d'encre, par exemple, doit être consommé extrêmement jeune pour être digeste et il ne doit absolument pas être accompagné d'alcool. Ni avant, ni pendant, ni après, pendant 5 à 10 jours autour de la consommation. La raison est qu'il contient une substance, la coprine, qui entraîne une intolérance à l'alcool. Le bolet blafard, quant à lui, est toxique s'il est consommé cru. Il doit être soigneusement cuit et ne doit pas être accompagné d'alcool non plus.
Et à côté de ça, il existe tous les champignons à caractère hallucinogène. Alors pour ce sujet, les variétés sont nombreuses, notamment avec les psilocybes, bien connus dans les rave parties. Mais d'autres champignons ont ce type d'effet, même si on ne les recherche pas volontairement.
Au Moyen-Âge, en Sologne, l'ergot du seigle se développait dans les réserves de céréales. Il a été responsable d'intoxications tristement célèbres. Les malades montraient des hallucinations passagères et une vasoconstriction des vaisseaux qui pouvait provoquer une gangrène ou nécrose des tissus. En pleine période d'Inquisition, cette maladie a été liée à la sorcellerie par les autorités et les personnes atteintes étaient d'office classifiées comme sorcières, exorcisées tant bien que mal et finissaient sur le bûcher. Ces troubles sont connus sous le nom du mal des ardents.
Chez les Aztèques, au XVIe siècle, des chamans utilisaient des champignons pour s'enivrer ou entrer en transe afin de communiquer avec le monde spirituel. Connu sous le nom de Teonanacatl, qui veut dire la chair de Dieu, ce champignon était très dangereux parce qu'il pouvait provoquer des comportements radicaux, comme c'est arrivé à l'évêque du Yucatan en 1562, qui a détruit des milliers d'idoles et de documents importants alors qu'il était sous l'emprise des toxines. Tout comme l'ergot du seigle, la substance responsable des hallucinations est similaire à ce qui sera appelé plus tard le LSD.
Et pour finir, on va vous parler d'un des champignons vénéneux les plus connus, l'amanite tumouche. Elle qui est si jolie avec son pied blanc et son grand chapeau rouge à points blancs, elle est souvent recherchée pour ses vertus hallucinogènes. Mais elle est responsable des pires empoisonnements car il n'existe pas d'antidote. Certains lui attribuent l'origine du mythe du Père Noël qui descend dans la cheminée. Ça vous étonne ? C'est vrai que le lien entre les deux n'est pas évident tout de suite. La légende veut que cette tradition chrétienne vienne à la base des pratiques païennes en Sibérie, durant lesquelles des chamans consommaient des champignons magiques pour communiquer avec le monde des esprits. Ils en distribuaient même à leur peuple comme cadeau en s'introduisant dans les maisons par les toits parce que les portes d'entrée étaient bloquées par la neige, d'où le mythe de la cheminée pour amener des cadeaux. D'ailleurs, les couleurs du Père Noël reprennent étonnamment celles de l'amanite tumouche. Et qu'en est-il de l'histoire des reines du vénérable barbu ? Eh bien, il semblerait que même les animaux recherchaient activement les champignons en forêt pour les manger, ce qui fait qu'ils s'intoxiquaient et que leur viande contenait des toxines quand les humains la mangeaient. Ils pouvaient donc imaginer des rennes volants et d'autres images hallucinantes.
Les légendes sont évidemment nombreuses et bien souvent controversées. On vous laisse croire ce qui vous plaît.
Pour terminer cette émission, on espère que tous nos auditeurs chasseurs de champignons font toujours très attention avant de consommer leurs cueillettes. Et n'oubliez pas que des contrôleurs existent dans chaque canton pour vérifier le contenu de vos paniers. Vous pouvez retrouver la liste des contrôleurs officiels sur www.vapko.ch.
On espère que ce petit topo qui finalement est bien conséquent sur le règne des mycètes vous a plu et que vous en avez appris autant que nous.
Dans le cadre de Nariès, nous organisons régulièrement des sorties nature sur les champignons, mais même si elles ne sont pas au programme, n'hésitez pas à nous commander une sortie en famille ou entre amis sur ce thème si ça vous intéresse. On se fera un plaisir de vous guider pour l'occasion.
Et concernant les rendez-vous Narès de la semaine, il n'y a rien de spécial, mais vous pouvez déjà noter le cours de cosmétique qui aura lieu le 1er juillet de 19h30 à 22h30 dans notre local. Vous pourrez apprendre à fabriquer vos propres cosmétiques solides avant de partir en vacances. Les places sont limitées, alors inscrivez-vous vite.
Toutes nos informations sont sur notre site internet www.naries.ch. Et en attendant, on vous souhaite évidemment une excellente semaine. À lundi prochain.
Au revoir.